Alors, semaine 40, année 2019. Salut Manu.
Salut Mag.
Salut Nolwenn.
Salut Nico.
Eh bien, pas de Luc pour aujourd'hui.
Non, il est au travail, il voyage.
Alors, qu'est-ce qu'on a au programme ce soir?
Alors, on a une jolie revue de presse de 6 articles. Rien de faramineux, mais il y a des choses intéressantes.
Alors, le monde informatique, open source et défense, les liaisons dangereuses sur fond éthique, de Tamlin Magui.
Donc, c'est un sujet assez intéressant. La défense, eh bien, il y a plein de choses difficiles, notamment il y a des morts potentiellement de gens qui peuvent être attaqués ou dans le cadre de la défense. Et il y a un souci d'éthique, parce que le logiciel libre qu'on fournit, le code source qu'on a produit, peut être utilisé pour tuer des gens, éventuellement. Et donc, il y a des personnes qui se posent des questions. Est-ce que dans les licences, on ne devrait pas intervenir et rajouter des clauses de conscience qui bloqueraient ces usages-là? Alors, c'est généralement pas considéré comme libre de faire cela, mais ça n'empêche, c'est un vieux sujet et il revient sous la forme de cet article.
Motorsport.com, pourquoi les top teams sont favorables à des pièces open source, par Fabien Gaillard.
Donc on a déjà parlé la semaine dernière, c'est la standardisation des pièces pour les Formule 1, qui est assez difficile parce que standardiser, c'est aussi un peu bloqué. Et donc il y a pas mal d'écuries qui s'intéressent au fait d'utiliser plutôt des pièces qui sont dessinées et partagées en libre. Et comme cela, il y aurait une évolutivité assez rapide potentiellement. Et il y a un partage pourtant de ce qui a été produit. Donc il y a des problématiques derrière, mais les grosses écuries s'y intéressent. Donc là, il est question de Mercedes, Ferrari, Red Bull, qui ont l'air d'être lancés là-dessus.
Public Sénat, souveraineté numérique, que contient le rapport du Sénat?
Donc c'est un gros truc, c'est le gros dossier en ce moment, notamment à l'April. Donc il y a des sénateurs qui s'intéressent à des différentes problématiques, alors qu'on appelle la souveraineté, et dedans, ça inclut le logiciel libre et les problématiques écologiques de renouvellement des objets. Comment on appelle ça?
L'obsolescence programmée.
Donc c'est un vieux sujet, ça revient encore une fois sur la table, et on espère que ça va aboutir à des choses un peu contraignantes qui vont notamment mettre en avant le logiciel libre, parce que le logiciel libre, c'est très pratique pour éviter l'obsolescence des objets qu'on a autour de nous.
Le point, droit voisin, enquête exploratoire de l'autorité de la concurrence.
Donc là aussi, c'est une reprise, un rebond de ce qui se passe en ce moment entre Google et les ayants droit européens qui ont mis en place un article 15 qui était supposé nécessiter que Google paye des droits aux différents médias, aux différents journaux de la zone européenne, et notamment de la France qui a implémenté la directive la première. Mais Google a fait la semaine dernière « Ah ben non, ça ne va pas me faire parce que je ne vais plus reprendre les vignettes et les chapeaux des articles des médias français. Donc vous n'avez pas besoin de me demander de l'argent. De toute façon, je ne rentre plus sous le coup de la loi. » Mais là, il y a une levée de bouclier, on en discutait. Il y a des ministres qui sont rentrés dans l'arène sur ce sujet-là et qui disent « Bah non, Google, va falloir payer parce que là, vous n'êtes pas un bon acteur de notre système. On a fait cette directive pour vous, quelque part. Va bien falloir qu'on l'applique. » Donc, ça risque de continuer. C'est un sujet qu'on va sûrement avoir de fond dans les mois qui viennent.
Ça risque d'être drôle.
La Gazette.fr, les logiciels open source ouvrent des gestions plus libres, par Baptiste Cessieux.
Donc là, ça parle de marché public et des administrations. Et effectivement, utiliser du libre dans les marchés publics, c'est quand même plus pratique que d'être bloqué avec certains éditeurs qui font du propriétaire. Et donc, il n'y a plus que eux qui peuvent fournir ces logiciels.
ZDNet France, open source, 3 levées de fonds et 67 millions d'euros pour Akeno, Gatsby et Scylla, par Thierry Noisette.
Alors, c'est 77 millions d'euros, c'est pas mal. Et effectivement, ce sont des entreprises qu'on ne connaît pas forcément, mais qui font du libre, de l'open source. C'est comme ça que c'est présenté. Donc, moi non plus, je n'ai pas creusé sur ce qu'ils font précisément. Mais on peut espérer qu'avec ces levées de fonds, cet argent, eh bien, ils vont produire encore plus de logiciels libres, dont on va parler plus tard.
Et donc, après cette revue de presse, de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine?
Oh, ils ont parlé de moteurs de recherche.
Bah oui, en plus, il y a plein de moteurs de recherche sur lesquels on pourrait parler.
Ouais, plein. Alors, c'est quoi un moteur de recherche?
Un moteur de recherche, c'est plutôt un outil que tu vas utiliser pour faire une recherche. Donc, si tu vas sur Internet, par exemple, tu vas chercher un site, donc tu vas taper des mots-clés et ça va te ramener des sites qui correspondent à ce mot-clé. Tu peux aussi être sur un site, par exemple, tu veux acheter des cosmétiques, tu vas sur un site en particulier qui vend des cosmétiques et tu vas chercher un type de fard à paupières. Et donc, tu vas chercher dans la catégorie des fards à paupières et tu peux même chercher avec le mot-clé rose, par exemple, si tu veux fard à paupières rose. Et là, ça va te sortir les fards à paupières roses qui sont recensés sur ce site. Mais il n'y a pas que sur Internet, il y en a aussi sur les ordinateurs.
Oui, quand on a des systèmes de fichiers, et dans nos fichiers, on a plein de données qui sont un peu perdues éventuellement, on a parfois
ça dépend des systèmes d'exploitation, des outils qu'on utilise, des moyens de faire une recherche qui va nous dire bah, tel fichier contient ce mot-là, et donc il les remonte, et ça nous permet de retrouver des vieux trucs qu'on avait peut-être oubliés ou qu'on avait simplement égarés dans la masse de nos données. Donc c'est pratique, mais en même temps, bah, c'est super complexe à faire, les moteurs de recherche. On en avait dans les années 90, je ne sais pas, faut vous rappeler Lycos, AltaVista, et il y en a sûrement d'autres que je n'ai plus en tête.
Yahoo aussi, hein, qui a commencé comme ça. Hein.
Caramel, il me semble aussi, non?
Ah, c'est possible, oui, oui. C'est possible. Et en fait, à l'époque, ça a commencé, c'était plutôt des annuaires de sites web, un peu comme les pages jaunes.
Des index, alors?
Des index, oui, oui, bah, tu avais toute une liste et on pouvait retrouver par catégorie qui était faite minutieusement à la main, voilà, souvent.
C'était surtout à la main, c'était pas du tout automatisé, c'était fallait s'inscrire en disant voilà, j'ai fait un site internet, mais merci de me renseigner dans telle ou telle ou telle catégorie. Et les modérateurs disaient ok ou non, ou en ajoutaient, en enlevaient, enfin, c'était vraiment un infernal à maintenir.
Et la difficulté de la maintenance aussi, c'est quand un site fermé et que l'information n'était pas remontée au modérateur de la liste. Et du coup, bah, on se retrouvait à faire une recherche sur l'annuaire et on arrivait sur un site qui n'existait plus.
Donc les mises à jour étaient particulièrement complexes. Et puis bah, voilà, les nouveaux sites n'étaient pas forcément indexés tout de suite. Il y avait des moteurs qui étaient en concurrence les uns avec les autres. Parfois, ils demandaient à être payés pour qu'on puisse s'inclure chez eux parce qu'ils nous garantissaient du trafic. Ce que font les pages jaunes, encore une fois.
Voilà, et après, derrière ça, il y a eu l'apparition des métamoteurs, parce qu'on en avait marre d'aller chercher. Parce que, comme les annuaires étaient manuels, bah, fonction des annuaires, on n'avait pas du tout le même contenu et pas la même couverture. Donc, ils ont fait des annuaires d'annuaires. Et donc, les métamoteurs allaient rechercher dans plein de moteurs, remonter les résultats, les afficher. Et donc, là, il y avait une espèce déjà d'automatisation de fait, puisque bah, toutes les semaines, ils allaient vérifier les nouveaux sites et les remonter automatiquement quand on faisait des recherches.
Donc ça restait compliqué et tout ça dépendait d'un Internet qui, dans les années 90 ou au début des années 2000, était relativement recroquevillé sur lui-même. Il n'y avait pas encore la pléthore de sites web qui existent aujourd'hui dans différentes langues, avec un historique ou un passif un peu compliqué.
Puis on avait les modems 56K à l'époque, hein, la petite musique au démarrage. On ne pouvait pas utiliser sa ligne téléphone quand on était sur Internet. Enfin, c'était compliqué, hein, quand on voulait faire des recherches. Il fallait plutôt des choses assez efficaces. Pour pas passer des heures et télécharger des mégaoctets ou des kilooctets même à l'époque, hein, je pense.
Et après ces annuaires, ces index, qui étaient donc manuels au départ, ensuite les métamoteurs, il y a eu les moteurs qui commençaient à faire du, alors moi je dirais en anglais du crawl, comme le crawl en piscine, hein, c'est le même terme en fait.
Ils utilisaient deux bras pour chercher des informations.
Exact.
Et plus que deux bras. Beaucoup plus que deux bras.
Non, en fait, c'est plus un terme qu'on utilise en informatique pour décrire la façon dont on va explorer un fichier et rechercher les différents liens qui référencent d'autres fichiers.
Donc là, ça concernait tout Internet. Et en gros, il y avait des moteurs qui essayaient d'aller sur tout Internet. Et un petit peu comme sur une toile, il y a cet esprit-là, je pense, qui en faisait partie.
Bah, c'est le principe du web. Hein.
On va se promener sur tous les fils, on va tirer sur tous les fils et on va essayer de tous les indexer les uns après les autres. Donc ça fonctionnait encore il n'y a pas si longtemps parce que bah, Internet n'était pas si gros il n'y a encore pas si longtemps. Et donc, il y a des gens qui parcouraient tout Internet. Ça leur prenait éventuellement, je crois que c'est 2 semaines pour les moteurs un peu conséquents.
On parlait de 100 000 sites, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'était pas très gros, mais après là, il y a eu la vague de 2000, le boom de la bulle Internet,
ou Skyrock, tout
le monde, ou Skyrock, ou voilà, ou Multimania. Enfin voilà, c'était des sites de partout qui n'importe qui pouvait en monter. Et donc là, bah, il a fallu passer à des niveaux industriels d'indexation, donc avec des serveurs dédiés, beaucoup de problèmes de volumétrie ou autre qui étaient complètement colossales. Là, on est passé sur des millions voire des milliards de sites Internet. Et c'était la grosse bulle des années 2000.
Alors, comment les moteurs de recherche se sont améliorés? Puisque si on passe de 100 000 à des millions, ils ont bien dû s'améliorer.
Bah, c'est là qu'il y a eu des inventeurs et des gars qui, soi-disant, ont fait preuve de génie. Ils ont mis en point des algorithmes.
Et surtout, oui, c'était la boîte à l'époque, c'était Google. Hein. Ça a été un des premiers là, sur le sujet à vraiment faire des... Ils vendaient carrément le boîtier. Hein. C'était des grosses baies qu'ils vendaient pour faire de la recherche rapide sur Internet, faire de l'indexation, etc. Et ils ont commencé comme ça, quoi.
Leur algorithme s'appelait PageRank. Et à l'époque, donc, c'est des mathématiciens qui ont monté Google. Ils sortaient des universités, il me semble. Ils sont pas très vieux. Et ils ont inventé une sorte d'algorithme pas très compliqué qui permettait de dire cette page-là est référencée par des pages qui sont elles-mêmes référencées, qui sont elles-mêmes référencées. Et donc, il y avait une hiérarchie des pages. Et plus une page était référencée, plus elle remontait dans le page rank. Et plus elle avait de poids. Et elle apparaissait en premier dans les résultats.
Donc ils ont commencé à trier les résultats qu'ils obtenaient.
À l'aide de leur algorithme.
Comme ce n'était plus des annuaires, ce n'était plus l'humain qui allait pouvoir descendre dans toute la hiérarchie et trouver le site avec le thème qui allait bien. Ils étaient obligés, à partir d'un mot-clé, de retrouver quel est le meilleur site internet qui correspond. Donc ils avaient vraiment besoin d'un algorithme qui, à partir de mots-clés, donne un score. Et c'est ça qu'a donné PageRank et qu'a fait toute la fortune de Google aujourd'hui.
Donc, et aujourd'hui, c'est clairement les mastodons du marché de la recherche sur Internet. J'ai regardé, ils sont à 95% d'usage sur l'Internet français. Donc, quand vous faites des recherches, à 95%, vous passez par eux.
Donc, avec tous les biais qu'on connaît hein, derrière, maintenant la puissance de frappe de Google, les bulles de filtre, etc. C'est vrai que ça a quand même pas mal dérapé par rapport au tout départ.
Alors, on va peut-être pas rentrer dans la bulle de filtre, parce que je pense que ça fait partie des sujets qu'on pourra sûrement explorer. Mais on peut te dire qu'est-ce qu'on utilise, nous, chacun, comme moteur de recherche au jour le jour. Allez, Nicolas.
Moi, j'utilise StartPage.
C'est quoi
StartPage. En gros, c'est... Alors, ils ne s'en cachent pas, ils utilisent Google, en fait, ils utilisent les résultats de Google, mais en les anonymisant et en évitant de tous les problèmes de vie privée ou autre. Et donc, ils remontent les résultats de Google, mais de manière anonyme et protégée, d'accord, on va dire.
Donc, ça marche bien parce que Google n'est pas mauvais comme moteur de recherche.
Clairement, Google n'est pas mauvais et en termes de précision de la recherche, j'ai malheureusement pas trouvé mieux. Quoi.
Et toi, Nolwenn, qu'est-ce que tu utilises ?
Pendant un temps, j'ai utilisé DuckDuckGo et depuis un an ou deux, je suis passé sur StartPage.
Alors moi, j'utilise DuckDuckGo, donc c'est une entreprise américaine qui est un métamoteur. Il va chercher sur plusieurs moteurs en même temps. Il anonymise les résultats et je trouve que les résultats sont plutôt bons. Je l'utilise vraiment beaucoup, beaucoup pour mon travail. Je suis informaticien et donc ça fonctionne assez bien. Et donc pour toi, Mag, toi qui es libraire, hein, qu'est-ce que tu utilises comme moteur de recherche en ce moment ?
Alors, vous ne moquez pas, hein, mais moi, soit je n'utilise pas de moteur de recherche, c'est-à-dire que je vais directement sur des sites que je connais parce que je sais que je vais trouver cette information-là, soit je vais utiliser le moteur de recherche de Wikipédia.
Bah, c'est très bien.
Oui, mais ce n'est pas tout Internet. Wikipédia, c'est super comme point de départ, tu obtiens des pages de référence, mais tu n'as pas forcément tout Internet sous la main.
Non, mais ça correspond aux besoins que j'ai à la librairie, donc pourquoi utiliser autre chose quand ça correspond, quand ça me donne les résultats que je veux ?
C'est vrai qu'après, chacun a son usage, hein, ça dépend. Chaque moteur de recherche va être différent. Google a tendance à être très pertinent sur tout ce qui va être actualité. DuckDuckGo a pas mal d'avantages quand on est technique, justement. On peut faire chercher sur tel site internet avec des mots-clés assez précis. StartPage est plus généraliste. Il faut vraiment trouver les moteurs qui vont bien. Il y a aussi des moteurs de recherche spécifiques dans les impressions 3D, par exemple. Donc, il ne faut pas hésiter.
Il reste des domaines, en fait.
Ou la partie encyclopédie.
Qui vont indexer pour un domaine particulier. Et eux, ils sont la référence de ce domaine-là. Et effectivement, les données de référence, par exemple, c'est Wikipédia.
Encyclopédie, c'est Wikipédia, clairement.
Moi, j'utilise ça énormément. Alors, il y a deux autres moteurs de recherche qui fonctionnent encore aujourd'hui en compétition avec Google, d'après ce que j'ai regardé. C'est Bing et Yahoo. Donc Yahoo, c'est un vieil annuaire qui à l'origine se faisait plus ou moins à la main, qui était catégorisé, et ils ont été, il me semble, rachetés ou absorbés ou rapprochés de Bing et de Microsoft. Donc.
Après, puis Yahoo a un énorme parcours. Ils étaient fournisseurs d'accès. Ils font un peu tout et n'importe quoi.
C'était la darling d'Internet.
C'est ça. Mais ils ont eu un parcours assez compliqué, alors que Google, ça a vraiment été leur cœur de métier, et Microsoft, ils sont mis par la suite il y a quelques années seulement, hein, c'est pas si vieux que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les trois seuls moteurs qui existent et qui sont à peu près utilisés, quoi.
Oui, Bing, ils ont sorti les milliards pour mettre en marche un écosystème autour de leur moteur de recherche. Et effectivement, c'est la puissance de Microsoft, c'est que leur moteur de recherche peut se retrouver sur plein d'ordinateurs par défaut. Et combien de nos auditeurs vont utiliser leur moteur de recherche par défaut ? Parce que ils ouvrent Internet, c'est-à-dire qu'ils lancent l'Internet Explorer. Dessus, il y a une barre de recherche, ils tapent dedans, et y compris des adresses. Et ça leur fait, ça marche bien parce que ça fait l'affaire. Et c'est juste le moteur par défaut.
C'est un des moyens que Microsoft a trouvé pour contrer Google, c'est-à-dire qu'ils se servent de leur monopole de machines avec Internet Explorer, ainsi de suite, pour imposer leur moteur de recherche. Bon, ça ne suffit pas, comme on le voit avec les chiffres en France, où Google a quasiment un monopole, 95%, c'est quand même énorme, mais peut-être que dans d'autres régions du monde, le pourcentage est différent.
Mais ils sont déjà fait taper dessus par la Commission européenne et plein de lois antitrust et anticoncurrentielles, parce que justement, ils considéraient qu'il y avait des abus de position dominante de partout. Donc, ils avaient l'obligation de mettre ce qu'ils appellent les ballot screens, c'est un écran de choix de navigateur et donc de moteur de recherche derrière. Mais ça a été un peu biaisé parce que derrière, même si on choisissait Firefox, bah, c'était aussi des partenariats avec Yahoo ou Microsoft qui retournent, enfin, ou Google qui remontait du Google. Enfin, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les moteurs de recherche, malheureusement, le seul qui est vraiment très pertinent, très efficace, etc., ça reste Google. Hein. Les autres, testez-les, hein, clairement. Vous pouvez les tester, voir les alternatives, mais vous allez être souvent frustré quand même.
En même temps, c'est facile d'être pertinent quand tu as de la puissance de calcul derrière.
Et aussi, la partie, sur la partie Google, c'est la partie personnalisation, parce que c'est vrai que les gens vont toujours cracher sur la vie privée, etc. Mais quand, comme Google vous connaît, sait dans quel domaine vous bossez, etc., quand vous faites une recherche, ils sont déjà capables de filtrer. Et c'est vrai que moi, si je cherche test, ben, il va plutôt me retrouver des tests unitaires ou des choses orientées à développement. Si quelqu'un va chercher test, si c'est un psychologue, ben, il va tomber sur des tests psychotechniques ou des tests, tests de Rorschach ou des trucs comme ça. Et la puissance de Google est aussi là, et si c'est très pertinent, c'est parce qu'ils vous connaissent très bien.
Donc eux, ils ont cette force-là, ils sont installés. Aujourd'hui, ils rencontrent quoi comme difficulté ? Bon, bah, la Commission européenne, les lois françaises, parce que bah, ils récupèrent beaucoup d'argent. Leur business model, c'est la publicité, hein, c'est le fait que vous regardez des écrans sur lesquels ils mettent des pubs. Et comme ils sont les portiers d'Internet, ils se retrouvent à rediriger tous les gens qui se promènent sur Google. Par exemple, sur les médias, les journaux. Et les journaux, bah, on le voit en ce moment, se plaignent parce que bah, 30% de leur chiffre d'affaires vient de Google directement. Et si jamais ils ne se mettent pas d'accord là dans les semaines qui viennent, eh bien, ils risquent potentiellement de perdre un gros afflux de visiteurs. Ça risque de perturber beaucoup de business models.
Oui, mais ça, c'était le sujet de la semaine dernière. Donc, je vous encourage à écouter le podcast.
Et en particulier celui de la semaine prochaine, du coup.
Sûrement, parce qu'on va sûrement parler de tout ça.
Bah du coup, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous.
À la semaine prochaine.